J'ai eu à cœur de vous parler très simplement de trois épisodes qui peuvent illustrer quelques faits de guerre dans la vie d'Abraham, le père des croyants. On va prendre Genèse chapitre 13. Il y en a plein de combats. Hein. Alors, je ne vais pas vous faire un catalogue ce soir. Hein. Juste trois illustrations très précises, très courtes, très simples, très connues d'ailleurs. Hein. Je n'apporte rien de nouveau. Hein. Genèse 13, je pense qu'il y en a, ça sera pour la 198e fois qu'ils entendront prêcher sur ce passage. Genèse chapitre 13, verset 5. Lot, qui voyageait avec Abram avait aussi des brebis, des bœufs et des tentes. La région ne suffisait pas pour qu'ils habitent ensemble. En effet, leurs biens étaient si nombreux qu'ils ne pouvaient plus rester ensemble. Il y eut une dispute entre les bergers des troupeaux d'Abram et les bergers des troupeaux de Lot. Les Canaans et les Phérésiens habitaient alors dans le pays. Abram dit à Lot, « Qu'il n'y ait donc pas de dispute entre toi et moi, ni entre tes bergers et les miens, car nous sommes frères. Tout le pays n'est-il pas devant toi? Sépare-toi de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Et si tu vas à droite, j'irai à gauche. » Lot leva les yeux et vit que toute la plaine du Jourdain était entièrement arrosée. Avant que l'Éternel n'ait détruit Sodome et Gomorrhe, c'était comme Tsoar, comme un jardin de l'Éternel, comme l'Égypte. Lot choisit pour lui toute la plaine du Jourdain et se mit en marche vers l'est. C'est ainsi qu'ils se séparèrent l'un de l'autre. Abraham s'installa dans le pays de Canaan, tandis que Lot s'installait dans les villes de la plaine et dressait ses tentes jusqu'à Sodome. Les habitants de Sodome étaient mauvais et péchaient beaucoup contre l'Éternel. Le premier combat que j'ai trouvé, que j'ai voulu illustrer, c'est éviter pour nous, parce qu'on parle pour nous ce soir, hein, on ne parle pas que pour l'époque d'avant, pour nous, éviter les faux combats. C'est important ça, éviter les faux combats. Ne pas se tromper de combat. Vous savez que, vous connaissez l'histoire, c'est un conflit là qui est en train de se larver. Vous remarquez que c'est un conflit suite à la bénédiction. Abraham est béni, Lot aussi, ils réussissent, ils prospèrent et ils ont un problème de prospérité. Et suite à ça, donc vous avez lu, il n'y a plus de place. Et les bergers des uns et des autres commencent à se disputer. Ça monte vite en mayonnaise, vous savez. Hein, ça montait vite à l'époque, hein, et maintenant aussi d'ailleurs parfois. Et ça risque de s'envenimer très vite. Et c'est un conflit que Abraham n'a pas cherché. Il le subit. Et comment il gère ce conflit? On le sait, hein, c'était le plus ancien. C'était lui qui avait l'autorité. Il avait tous les droits. Il avait le droit d'imposer son autorité. Il n'a pas fait. Il a cherché la paix. J'ai noté, hein, la paix, la conciliation, l'humilité. Il a dit qu'il n'y ait pas de dispute entre toi et moi, car nous sommes frères. Je ne trouve pas que ça nous parle parfois, pour nous, ça. Dans notre vie. Peut-être pas maintenant, mais peut-être plus tard ou peut-être avant, je ne sais pas. Et vous voyez, qu'il n'y ait pas, car, je t'en prie, de dispute, car nous sommes frères. Et je pense que ça, c'est pour nous, c'est important. Frères et sœurs, c'est important dans ma vie que je cherche la paix. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés enfants de Dieu. Et on a la vie fait qu'on a des conflits. Il y a des conflits professionnels, personnels, familiaux, dans l'Église. Non, jamais dans l'Église. Et forcément, c'est humain, c'est normal. Je ne sais pas si c'est vraiment normal, mais en tout cas, ça arrive. Et certainement que nous, à chaque fois, Nous devons aspirer à être comme le Seigneur, à fuir les faux combats. Notre combat, notre ennemi, ce n'est pas un être de chair, c'est un ennemi spirituel. Et mon ennemi, ce n'est pas mon frère, ce n'est pas ma sœur, ce n'est pas mon voisin, ce n'est pas quelqu'un de ma famille, mais mon ennemi, il est ailleurs. Aussi, cette attitude de paix, de conciliation, d'humilité, de tact, de douceur, est importante. Et vous savez, il a renoncé à ses droits. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Alors, vous prenez pas ça mathématiquement. Hein. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si j'irai, c'est pas la politique, c'est pas pour les élections que je parle ce soir. Hein. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. Choisis et moi j'irai ailleurs. Ça voulait pas dire que si Lot avait choisi le pays de Canaan, Abraham serait à Sodome et Gomorre. Hein. Il y avait du choix, il pouvait aller. Mais il a dit, vas-y, c'est toi le premier, vas-y, choisis, alors qu'il avait tous les droits. Il a renoncé à ses droits. Alors qu'il avait été appelé par Dieu pour aller dans ce pays. Souvenez-vous, quand même. Va-t'en dans ce pays que je te donne, je t'ai promis. Et là, il dit, eh bien, vas-y, Lot. Toi, mon neveu, choisis. Sépare-toi de moi, il fallait, mais avec douceur, avec tact, il lui laisse la priorité. Et c'est vrai que tout ça, on peut l'appliquer dans un tas de circonstances qu'on peut rencontrer. Et vous savez, ces passages, je les connaissais bien. Quand Jésus a dit, si quelqu'un plaide contre toi et demande, hein, je ne sais plus quoi, mais enfin, donne-lui ton manteau, etc. Bon, etc. Quand l'apôtre Paul parlait aux Corinthiens et qu'il disait, mais comment ça se fait que vous avez des procès entre vous, entre frères et sœurs dans l'Église? Est-ce que ça aurait pas été, est-ce que c'est déjà un tort d'avoir des procès entre vous? Et même, est-ce que vous n'auriez pas dû renoncer à vos droits? Tout ça pour dire que, avec la sagesse de Dieu, c'est pas facile à appliquer, mais je suis sûr que le Seigneur a toujours raison. Voilà ce que je veux dire. Voilà. Parce que, tout simplement, ce que je voudrais vous dire, c'est que je ne sais pas toujours comment. Voilà. On ne peut pas se cacher qu'il y a des passages difficiles dans la Bible. Vous savez, vous êtes d'accord avec moi? Il y a des passages difficiles dans la Bible. C'est facile de prêcher. C'est autre chose de vivre. Donc je suis très conscient que tout ce que je dis, je dois le vivre. Sinon, j'ai aucune crédibilité envers vous. Vous êtes d'accord? Si vous savez que je bats ma femme et que je vous parle de la paix dans le foyer, je vais avoir un problème de crédibilité. On est d'accord? Pour l'instant, c'est clair. Bien. Donc, quand je suis conscient qu'il y a des passages que nous, chrétiens, qui lisons la Bible depuis parfois 5 ans, 10 ans, 20 ans, on les zappe. Et on dit, mais le Seigneur, il est allé un peu trop fort quand il dit, attends, si quelqu'un te réclame ça, et file-lui encore autre chose, et puis etc., vas-y, et bon, allez, je ne suis quand même pas une poire, quoi. Enfin, on dit ça dans notre tête. Bon. J'ai pas l'explication à tout. Il y a des passages difficiles quand Jésus il a dit « Si quelqu'un te frappe sur la joue, tends l'autre. » Il y a des passages qu'on ne peut pas interpréter toujours primairement, c'est vrai. C'est vrai. Mais néanmoins, la sagesse de Dieu, elle est là, et je suis sûr que dans des tas de circonstances, on croit qu'on est sage, qu'on est intelligent, et pourtant, si on avait écouté la voix douce du Saint-Esprit nous parler au travers de la parole de Dieu, adaptée à notre circonstance précise à travers sa parole, je suis sûr qu'on serait gagnant à long terme. En tout cas, moi, je l'ai expérimenté des tas de fois, et je suis sûr qu'il y en a plein qui l'ont expérimenté. Vous voyez ce que je veux dire? Et parfois, on croit qu'on est intelligent, on est intelligent, et en fait, on a gagné. On a gagné un combat. On a gagné, on a eu raison. Ou on a défendu nos droits mordicus, ou on a fait un procès, ou on a fait ci, on a fait ça. Et au total, on se dit, mais le Seigneur, il est pas bête, hein. Parce que lui, il voit à long terme et Seigneur, il sait ce qu'il fait. Tout ça pour dire que évitons les faux combats, ne nous trompons pas de combat. Un autre combat, chapitre 14, juste après. Hein. Alors, on ne va pas tout lire parce que c'est un peu long quand même. Hein. Bon, je résume. Il y a une alliance de rois, des rois qui se liguent et qui attaquent les rois de Sodome et Gomorre. Bien. Et c'est une guerre importante. Hein. C'est une ligue de guerre, une ligue de rois, quatre rois contre cinq. Et c'est le roi de Sodome et Gomorre et leurs alliés qui ont perdu. Donc ça se passe mal. Et on va prendre au verset 10, 14-10. 14-11 même, les vainqueurs s'emparèrent de toutes les richesses de Sodome et de Gomorre, et de toutes leurs provisions, puis ils s'en allèrent. Ils s'emparèrent aussi avec ses biens de Lot, le fils du frère d'Abraham, avant de s'en aller. C'est qu'il habitait à Sodome. Un rescapé vint l'annoncer à Abram l'Hébreu. Celui-ci habitait parmi les chiennes de Mamré l'Amoréen, un frère d'Escol et d'Adner. En effet, ils avaient fait alliance avec lui. Dès qu'Abram apprit que son neveu avait été fait prisonnier, Il arma 318 de ses plus braves serviteurs nés chez lui et il poursuivit les rois jusqu'à Dan. Il divisa sa troupe pour les attaquer de nuit avec ses serviteurs. Il les battit et les poursuivit jusqu'à Shub, qui est au nord de Damas. Il ramena toutes les richesses. Il ramena même son neveu Lot avec ses biens, ainsi que les femmes et le peuple. Voilà. C'est un autre combat, là. J'ai noté, ramener tout ce que l'ennemi, ramener tout le butin que l'ennemi a pu nous prendre. Ramener tout ce qu'il a pris. C'est une victoire admirable de la part d'Abraham. Parce que quand même, Lot, il avait bien cherché. Il avait bien cherché. Il avait fait son mauvais choix. On peut l'identifier à plein de cas qu'on connaît, hein, des gens qu'on connaît parfois. C'est sa faute. C'est le type du chrétien qui vit dans le compromis, moitié avec Dieu, moitié dans le monde, et c'est sa faute. Et là, il est pris dans cette guerre qu'il n'a pas cherchée, et il se fait embarquer, et il est prisonnier. Et Abraham, c'est une histoire de... Quand même. Dès qu'il a pris, ni une ni deux, dès qu'il a pris que son neveu... Quelle compassion, quel amour quand même. Dès qu'il a pris que son neveu a été fait prisonnier, il arme 318 de ses plus braves serviteurs. Il a aussi ses amis là, avec qui il avait fait alliance, là, qui viennent l'aider. Et ni une ni deux, il part quand même. Non mais je ne sais pas si on réalise quand même. Hein. Il a fait, j'ai regardé, mais vraiment rapidement, je n'ai pas fait vraiment d'études profondes là-dessus, mais il y a au moins 300 km, hein, facile. Et je ne sais pas quoi il a... Je sais pas, hein. Alors j'ai pas trop cherché les moyens de transport, si c'était à d'autres chameaux ou quoi. Je ne sais pas s'il y avait des chevaux à l'époque, j'en sais rien. Enfin bon, toujours est-il que ce n'était pas le TGV. Au moins 300 km à se faire, là, ils sont allés les poursuivre, ils sont allés jusqu'au nord de Damas quand même. Et il s'est attaqué à une alliance de rois quand même, à une armée. Ils attaquaient de nuit. Avec la grâce de Dieu. Donc il y a quand même une compassion profonde pour son neveu. Pas d'esprit de jugement, pas dire c'est sa faute. Il est courageux, parce que quand même, Abraham, c'était pas un fou. S'attaquer à ça, c'était pas rien. Hein. Nous, c'est facile, on lit ça comme ça, mais il a eu la victoire, mais bon. Moi, je veux bien, c'était peut-être, j'en sais rien, 400, 500 au total, j'en sais rien, mais enfin, je sais pas combien ils en ont battu, quoi. J'ai noté vainqueur, donc. Sur l'orgueil spirituel, sur l'esprit de jugement, vainqueur sur l'égoïsme. J'ai noté vainqueur sur l'égoïsme. Il aurait pu rester tranquille et dire « Ah, la bénédiction de Dieu. Ah, c'est bien, je suis béni. Moi, Abraham, le père des croyants, Dieu me bénit. » Mais c'est vrai. Il aurait pu dire « Je suis tranquille. Ah, Seigneur, je suis sous mon palmier. Seigneur, que je suis bien avec toi. Ah, ben Abraham, qu'est-ce que tu veux ?» Il a cherché. Hein. Ben oui, le pauvre... Seigneur, bénis Lot, je veux dire. Il a cherché Lot. Ah, Seigneur, bénis Lot. Oui, il n'a pas fait ça du tout. Ça, c'est une victoire sur l'égoïsme. Tout ça, bien sûr, je vous le dis, on est concerné. Vous l'adaptez à vous maintenant. Moi, je l'adapte à moi. Donc, il est courageux. Il n'a pas peur de la fatigue. Il n'a pas peur de l'effort. Il s'implique fortement. Et il y va. Et il y va. C'est beau, hein? Et ça, c'est l'esprit de Jésus. C'est l'esprit du bon berger. C'est l'esprit du bon berger qui laisse... Le Seigneur, qu'est-ce qu'il fait avec nous quand on fait des erreurs? Le Seigneur, quand on... C'est vrai que parfois, le Seigneur peut nous reprendre, nous faire des reproches, mais en général, le Seigneur, il commence par nous aider. Après, il peut nous dire... Il nous dit, ben oui, mais attends, là, bon... Hein, quand Pierre est coulé, le Seigneur, il a dit, bon, il a sorti de l'eau, et puis après, il a dit, oh, homme de foi, homme de peu, pourquoi as-tu douté, homme de peu de foi? C'est l'esprit du bon berger, c'est l'esprit de celui qui se sacrifie, c'est l'esprit de celui qui cherche la brebis qui est perdue, c'est l'esprit de celui qui renonce, qui est vainqueur, qui n'est pas content de lui, mais qui a de la compassion pour les autres. C'est l'esprit de Jésus que nous voulons avoir. Amen. Moi, je ne l'ai pas assez. Hein. Donc, je ne vous donne pas des leçons. Je fais une prédication, vous savez, la prédication écho. Je l'envoie et puis elle me revient boomerang, quoi. Donc je pense que Moi, j'ai besoin d'apprendre à avoir de la compassion parce que on est trop dans parfois trop dans notre confort. On est trop dans notre confort. Et on est trop heureux parfois, nous chrétiens. J'ai une bonne nouvelle à vous annoncer, on est trop heureux, on n'est pas assez malheureux. On n'est pas assez malheureux du malheur des autres. Et on est trop heureux de nous-mêmes. Et on a besoin que le Seigneur nous touche notre cœur, chacun pour notre part, pour que quand il y a quelqu'un dont nous apprenons que ça ne va pas, eh bien on va prier pour lui, on va avoir la compassion, on va peut-être faire quelque chose pour lui, concrètement. Ça sera peut-être un chrétien qui s'est planté, qui a eu des problèmes, ça sera peut-être quelqu'un qui n'est pas chrétien, qu'on peut aider concrètement, enfin je ne sais pas, il y a plein de choses. Mais le Seigneur a certainement beaucoup de choses à nous dire à chacun d'entre nous. Troisième et dernier cas, Genèse 14, 21. Ah là là, vous connaissez bien ça aussi. Le roi de Sodome dit à Abram, « Donne-moi les personnes et prends pour toi les richesses. » Ah, le coquin. Abram répondit au roi de Sodome, « Je te le jure, la main levée vers l'Éternel, le Dieu Très-Haut, le Maître du ciel et de la terre, je ne prendrai rien du tout de ce qui t'appartient, pas même un fil, ni un cordon de sandales, afin que tu ne puisses pas dire, c'est moi qui ai enrichi Abram. Il n'y aura rien pour moi, sauf ce qu'ont mangé les jeunes gens, et la part des hommes qui m'ont accompagné, Abner, Eskol et Mamré. Eux, ils prendront leur part. » Je trouve que ça, c'est la pire, celle-là. C'est la victoire sur la pré-victoire. C'est dur, ça. Dangereux, ça. On a eu une victoire, il n'y a rien de pire qu'après la victoire. Là, Abraham, il est revenu vainqueur. Il a filé une dérouillée au roi... À cette ligue de rois, là, il a ramené tout le monde, le butin, tout, la famille, Lot, et tout à ce moment-là. Et là, il y a Lot qui arrive, il y a le roi de Sodome qui arrive, là, et qui lui propose quelque chose à ma foi. Ma foi, il lui propose quelque chose de... C'est pas immoral, c'est pas légitime, c'est pas illégitime. Je veux dire, Abraham, il avait le droit d'accepter, hein. Dieu ne lui avait pas dit « tu vas refuser ». Bon, il n'y avait rien d'immoral. Il lui dit « voilà, écoute Abraham, d'accord, écoute, tu gardes les... Tu donnes les personnes et tu gardes tout. Toutes les richesses que tu as prises, tu les gardes pour toi. Il suffit que tu rends les personnes. » C'est subtil, hein. Et Abraham, lui, il est attaché à... Là, c'est vraiment subtil. Il est attaché à avoir un témoignage face à ces gens qui sont pervertis au possible, ça c'est sûr. Et il dit non, déjà il rend témoignage de son Dieu, il dit je jure la main levée vers l'Éternel, le Dieu très haut, le Maître du ciel et de la terre. Déjà donc il témoigne que son Dieu c'est le grand Dieu, c'est le Dieu. Et c'est un homme de conviction et il dit je ne prendrai rien. Afin que tu ne puisses pas dire, c'est moi qui ai enrichi Abraham. Il est attaché à avoir un témoignage qui rend la gloire à Dieu. Sa réussite, elle vient de Dieu, et il ne veut pas avoir réussi à cause de ces gens-là. Et en même temps, c'est un homme de conviction profonde qui est très sévère avec lui-même. On peut dire, il est très sévère avec lui-même. Et ça, c'est un modèle pour nous, dans nos vies, à nous. Je vais dire simplement pratiquement comment on peut l'adapter à nous. Et il est très sévère avec lui-même et en même temps, il n'est pas sévère avec les autres. Parce qu'il est équilibré. Parce qu'il dit quand même, je ne prendrai rien, afin que tu ne puisses pas dire j'enrichis, il n'y aura rien pour moi, sauf ce qu'ont mangé les jeunes gens. Ah ben oui. Et la part des hommes qui m'ont accompagné, parce qu'il a des alliés qui n'ont pas sa conviction. Il dit, eux, ils auront leur part. Eux, je ne leur impose pas mes convictions. Et ça, c'est bien, parce que parfois, il y en a, ils sont dans l'autre sens. Ils sont plutôt... Ils veulent toujours imposer leurs convictions aux autres. Mais frères et sœurs, il faut qu'on apprenne parfois dans notre vie à toujours faire la différence entre ce qui vient de la parole de Dieu, ce qui est écrit, et ce n'est pas toujours si simple que ça, et nos convictions personnelles. Parfois qu'on a pris avec un cheminement avec Dieu qui a duré 20 ans, 30 ans. Et on oublie comment Dieu il nous a supportés avec nos faiblesses et on dit aux autres, ah ben il faut être comme ça, il faut être comme ça. Non, non. Sois très sévère avec toi. Sois très sévère avec toi. Sois intransigeant avec toi. Refuse le péché pour toi. Refuse le compromis. C'est ça que ça veut dire la leçon pour moi. C'est que je veux refuser ce qui est parfois légitime, mais qui peut être porté atteinte à mon témoignage ou à ma vie avec Dieu. Vous comprenez ce que je veux dire? Ce n'est pas écrit clairement dans la Bible que cette chose-là, je ne peux pas le faire. Et on peut jouer beaucoup avec ça. Ce n'est pas écrit dans la Bible que je ne jouerai pas au loto. Ce n'est pas écrit dans la Bible que je ne jouerai pas au jeu d'argent. Ce n'est pas écrit dans la Bible... La Bible ne m'interdit pas de regarder la télé. La Bible ne m'interdit pas... d'être riche, la Bible ne m'interdit pas de jouer en bourse, il y a plein de cas où on peut dire, on peut faire ce qu'on veut. Et où les opinions des uns et des autres, autant qu'on les représente ici, sont très variables. Où on ne peut pas faire une loi. Et c'est là qu'il est très important, frères et sœurs, et on peut en donner des tas d'exemples. Ou le même qui est intransigeant sur un cas, comme ça, va dire, ben non, ben moi, par exemple, les parcmètres, je ne les paye pas. Et puis l'autre va dire, non, mais c'est un grand péché pour moi, je prends un exemple exprès, vous voyez. Il y a plein de cas qui touchent à nos convictions personnelles. Ou... Donc c'est très important pour nous, quand on est vis-à-vis du Seigneur, d'avoir une conscience claire. Et de garder une bonne conscience. C'est ce que dit la parole de Dieu, garder une bonne conscience, comme l'apôtre Paul le disait à Timothée. Et nous avons besoin d'avoir dans notre cœur, surtout d'être attachés à garder une bonne conscience, c'est-à-dire de calquer premièrement notre conduite sur ce qui est écrit dans la parole de Dieu, et après sur le témoignage intérieur que nous donne le Saint-Esprit par rapport à nos faiblesses personnelles à nous, qui font que certaines choses, je ne peux pas les faire et que d'autres ont la liberté de les faire et que je ne dois pas juger ceux qui les font alors que moi, je ne les fais pas et que je ne vais pas leur imposer mes convictions. Et que si moi, chrétien, j'ai décidé que je n'ai pas envie de regarder la télé, c'est mon problème et je ne l'impose pas aux autres, par exemple. Mais par contre, dans la même chose, je dois être dans l'autre sens, je dois être sévère avec moi-même pour rendre gloire à Dieu. Et ce qui compte, après tout, là-dedans, c'est ma vie avec le Seigneur. Amen. Et pour conclure, la vie d'Abraham était structurée par des grands principes spirituels, j'ai noté ça, qui lui permettaient d'être prêt au moment du conflit. Vous avez remarqué que dans tous ces cas-là, Dieu ne lui parle pas avant. Il n'a pas une révélation où Dieu lui dit « Abraham, va secourir Lot », par exemple. Ou « Abraham, pour la dispute ». Tu sais, Abraham, vous comprenez ce que je veux dire. Il n'a pas de révélation. Il est prêt, sa vie est structurée par une marche avec Dieu. Et c'est très important pour nous. Plus nous marchons près du Seigneur, plus nous sommes habitués à l'écouter, plus nous lisons la Bible, tous les jours, et nous nous laissons imprégner par le message de la Bible en la lisant en entier, systématiquement et complètement, et pas au hasard. Je dis ça au cas où ça concernerait quelqu'un. Où nous lisons la Bible en entier, systématiquement et d'une façon équilibrée, et nous laissant imprégner par ce message, alors que nous le voulions ou non, cette vie avec le Seigneur imprègne et nous donne des principes qui font que quand le conflit est là, il y a une réaction qui se met en place et qui est là, qui est par le Seigneur, qui fait qu'on n'a pas besoin de dire « Oh Seigneur, je cherche ta volonté », mais on a ces principes en nous qui nous structurent. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est important ça, frères et sœurs. Et ça donne de la solidité, parce que quand le conflit est là, on n'a pas le temps de se préparer. Moi, demain, je vais peut-être rencontrer un grave problème, un conflit. Tous les jours, on a tous les jours, on est en guerre. Et on n'a pas le temps de se préparer au moment où il est là, le conflit. C'est trop tard. C'est trop tard. Et en fait, on ne se rend pas compte, mais comme on est habitué dans notre marche avec le Seigneur à laisser le Seigneur nous parler et à modeler notre façon de penser, et ça c'est très important, de laisser l'Esprit de Dieu changer notre raisonnement, notre foutu raisonnement, qui est parfois bien tordu, et laisser à la parole de Dieu changer là-dedans aussi. Il y a là, mais il y a là aussi dans la tête. Les raisonnements qui font que nos mentalités, qui sont parfois tellement déformées, par notre ancienne vie, par notre culture, par notre éducation, on a appris tellement de choses d'une façon tordue, par notre nationalité parfois même, je ne sais pas quoi vous dire. Mais toujours est-il qu'on a besoin de penser comme le Seigneur, et ça ne se fait pas tout seul. On a besoin de laisser le Saint-Esprit renouveler notre pensée afin que nous ayons les bonnes réactions. Amen. Et alors, après, Dieu permet, et c'est fait exprès, Dieu le fait, le Seigneur fait exprès ça. Il permet qu'on rencontre un conflit, et au moment où on est dans le conflit, on ne sent rien. Et vous dites, où est le Seigneur? Où es-tu passé, Seigneur? Je sens rien, mais où es-tu? Il n'y a plus de présence de Dieu. Je me sens tout seul. Je me sens tout seul. Je me sens tout seul et je ne suis pas seul du tout. Et j'ai jamais été, le Seigneur n'est jamais aussi présent avec nous que quand on se sent tout seul. Et c'est là qu'il faut justement, qu'il faut rester solide. Je sens rien. Je sens rien. Je suis tenté. Je suis tenté de pécher dans un domaine ou dans un autre. Je sens rien. Mais je dis, Seigneur, dans mon cœur, par la foi, je reste droit dans mes bottes par ta grâce. Je sais que ta parole dit que ça, c'est pas bien, et ta parole dit que ça, je dois réagir comme ça, ta parole dit que je dois pas aller dans cet endroit, ta parole dit que je dois pas faire ça, ta parole me dit que je dois pas me mettre en colère, même s'il m'insulte, etc. Ça peut être des tas de circonstances, et je reste droit dans mes bottes. Et vous verrez qu'à partir du moment où vous avez pris position pour le Seigneur, après la grâce de Dieu vient. Pendant aussi, mais certainement après aussi. Et pour terminer, après le conflit, justement, quand vous reprenez tous ces passages, j'ai fait exprès de ne pas les lire, mais je ne vais pas vous les lire, mais vous le reprendrez, vous verrez que après ces conflits qu'il a eus, Dieu, le Seigneur, à chaque fois, lui parle. Après qu'il ait pris les bonnes résolutions, les bonnes décisions, quand il a pris cette décision avec Lot, l'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fût séparé de lui, lève les yeux. Comme pour lui dire, mais regarde, Abraham, tu as fait le bon choix, toi, mais moi, je te récompense. Pareil, quand il a ramené Lot, qu'il a fait la guerre au roi, juste après, c'est Melchisédek qui le rencontre et qui lui donne le pain et le vin et qui le bénit. Et oui, et juste après il ait résisté au roi Sodome, après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham, n'aie pas peur, je suis ton bouclier, ta récompense sera très grande. Histoire de croire peut-être qu'Abraham, il avait peur, justement, si Dieu lui parle comme ça. Ah, que le Seigneur est bon, amen. Et quand le Seigneur est bon, parce qu'il ne permet jamais que le combat soit au-delà de nos forces. Et c'est vrai que quand on prend, et je termine pour ça, quand on prend position pour le Seigneur dans notre vie, quel que soit le combat, Dieu prend largement position pour nous. C'est pour ça que l'apôtre Pierre disait, par exemple, à propos de la persécution, il disait, vous qui êtes persécutés, réjouissez-vous parce que l'esprit de gloire, l'esprit de Christ repose sur vous. Dieu donne une grâce supplémentaire à ceux qui souffrent pour son nom. Dieu donne une grâce supplémentaire et le Seigneur donne toujours sa grâce à celui qui sera vainqueur. Dans l'Apocalypse, je donnerai. Amen. Et si, on se sent parfois tout petit et on dit, ah Seigneur, mais moi je ne suis pas Abraham. Mais c'est quand même bon de savoir que le Seigneur, il a vaincu pour nous à la croix, qu'il nous a donné la victoire. C'est quand même bon de savoir qu'on n'est pas des surhommes, on n'est pas des héros, on n'est peut-être pas Abraham, non. On est des chrétiens lambda. On n'est pas des gens extraordinaires, on n'est pas Moïse. On n'a pas passé 40 jours à sans manger et boire sur le mont Sinaï, bien sûr, parce qu'on a fait un largement avant. Mais c'est bon de savoir que pour des gens ordinaires comme nous, le Seigneur a promis sa grâce, sa victoire. Il a mené le combat pour nous à la croix. Il est ressuscité, il a écrasé notre ennemi et nous sommes du côté du vainqueur avec sa grâce. Amen. Alors, si parfois tu dis, mais j'ai un moment, ben moi, j'ai pas été comme Abraham, j'ai pris des défaites. Ben, vous le savez très bien, je n'en ai pas parlé. Vous savez très bien qu'Abraham, il a eu aussi des défaites. Il a eu des problèmes, il a eu des chutes, il a eu des défaillances. Mais par la grâce de Dieu, il s'en est relevé. Et c'est la fin qui compte. Amen.